With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Comme on manquait de sommeil, c'était très compliqué d'être patient avec elle. Et bien, c'est la violence des cris, parfois des coups que mon enfant pouvait me porter.
Ce moment, autour de 2 ans, c'est un moment charnière, une des étapes fondamentales du développement de l'enfant vers l'adolescence et l'âge adulte.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Sophie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Alors Mathilde, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler des difficultés que je peux avoir rencontrées avec ma fille Florie, qui va bientôt maintenant avoir 6 ans, mais qui a eu vraiment des difficultés. On a rencontré des grandes difficultés quand elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Ces crises d'opposition du terrible tout étaient assez fortes et puis majorées par le fait qu'elle ne dormait pas la nuit. Donc c'était compliqué pour elle et compliqué pour nous d'avoir la patience pour l'épauler dans ses apprentissages.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand elle a eu 2 ans et demi ?
Eh bien, à partir de 18 mois à peu près, elle commençait à dire « non, moi toute seule ». Donc c'était vouloir mettre son pantalon toute seule. Mais comme elle était frustrée parce qu'elle n'y arrivait pas bien, parce qu'elle était toute petite encore, elle criait dans tous les sens. C'était parfois des morsures quand son frère venait l'embêter ou lui piquer son doudou, ou quand elle n'arrivait pas à faire un château de cubes. Du coup, elle se mettait à crier. Quand on lui demandait de mettre ses chaussures ou de mettre son manteau, elle se roulait par terre. C'était des noms. C'était
une anguille. Des noms, des colères.
Ouais, des noms, des colères, des comportements un peu d'anguille. C'est-à-dire qu'elle faisait son chamallow, où elle voulait pas qu'on ait prise, finalement. Ou c'était, par exemple, quand elle voulait pas manger la petite purée de haricots verts ou les saucisses qu'on lui avait préparées. Ou sinon, c'était...
Donc ça pouvait se manifester de plein de manières différentes.
Plein de manières différentes.
Et comment vous, Sophie, vous avez vécu ces oppositions, ces colères ?
Et bien alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est ma deuxième enfant, donc j'avais un premier enfant qui a maintenant 7 ans, mais avec lui, comme c'était mon seul, j'étais très patiente, j'étais très focus sur lui, donc c'était plus facile de l'accompagner dans cette période de crise-là, et donc finalement il y a eu des crises oppositionnelles, mais somme toute assez normales, et puis on arrivait à gérer avec pas mal de patience finalement et d'accompagnement. Mais pour Florie, comme on manquait de sommeil, c'était très compliqué d'être patient avec elle. Donc tout de suite, on se mettait à crier, à hurler, à la prendre finalement avec pas mal de virulence, voire de violence parfois. Donc on se sent frustrée, impuissante, on a envie de pleurer, on se sent coupable. Enfin voilà, c'est toute une palette d'émotions pas toujours très agréables.
Oui, donc là, vous dites bien que finalement, ça s'est passé aussi chez votre fils, mais qu'à ce moment-là, vous vous êtes sentie plus armée pour pouvoir y faire face, pour pouvoir l'accompagner
tout à fait.
Dans cette période-là, alors que pour votre fille, du fait, vous disiez, de la fatigue notamment, oui. Bah, ça a été plus difficile
oui.
à vous, à vivre et du coup, de fait, pour l'accompagner.
Tout à fait. On n'avait pas notre besoin vital de sommeil qui était satisfait. Donc, on était juste en survie à ce moment-là.
Combien de temps ça a duré ?
Alors, moi, ça m'a paru une éternité, mais dans les faits, un peu moins. Après, ça dépend. Pour mon fils, ça a duré peut-être moins longtemps. Puis, c'est en pointillé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la manière dont nous, parents, on va envoyer la balle à notre enfant, comment est-ce qu'on va gérer une situation, va permettre à l'enfant de réagir complètement différemment. Donc, quand nous, on est bien, finalement, on va gérer les crises de manière beaucoup plus simple et facile que quand on est moins bien. Donc avec Constantin, ça a peut-être duré moins longtemps, ou c'était peut-être plus éparpillé. En tout cas, ça m'a paru moins violent que pour Florie, où là, ça m'a paru vraiment une éternité, alors qu'en fait, il y avait des semaines où c'était très compliqué, des semaines où ça l'était pas du tout. Le matin, ça pouvait être hyper compliqué avec le timing du matin, puis le soir, finalement, ça se faisait bien. Donc, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus, je trouve.
Donc, c'était fluctuant et dans une temporalité variable. En tout cas, ce n'était pas forcément des comportements d'opposition en continu. Il pouvait y avoir des mouvements de va-et-vient.
Oui.
Quand vous parlez de ce qui a été violent pour vous, c'est quoi cette violence ?
C'est la violence des cris, parfois des coups. Enfin, des coups. Je n'ai jamais frappé mes enfants. Mais des coups que mon enfant pouvait me porter.
L'agressivité que votre enfant pouvait manifester.
Bien sûr, et c'est se dire que moi, voilà, je suis la mère, donc je suis censée être un élément très stable, un rocher sur lequel elle peut s'appuyer. Et finalement, avec ce manque de sommeil-là, qui a vraiment été une problématique compliquée pour nous, comment arriver à être solide pour lui montrer le bon cap, alors qu'on n'est pas forcément disponible.
Est-ce que cette violence et cette difficulté, elle a été partagée par votre mari ?
Alors, pas de la même manière. Lui, il est beaucoup moins impulsif que moi. Donc, je pense que le tempérament, le caractère de chacun des parents joue aussi sur la prise en charge de l'enfant. Mais oui, évidemment, il y a eu des conflits de couple par rapport à ça. Sur « mais arrête de crier, oui, mais j'en peux plus, tu comprends pas, ça fait depuis ce matin qu'elle est comme si, t'étais pas là. » Des trucs comme ça qui sont complètement inutiles et qui ne servent à rien. Et avec le recul, on se rend compte qu'on peut faire les choses complètement différemment et qu'il faut apprendre à les faire différemment. Mais voilà.
Quel regard vous avez porté sur Sophie, la maman, quand justement, vous aussi, vous pouviez vous mettre à crier quand vous en aviez marre, quand ça devenait insupportable pour vous ?
C'est ce que j'explique maintenant à mes enfants, c'est que j'étais une maman dragon et que c'est terrible d'être une maman dragon alors qu'on aime ses enfants et qu'on ne veut absolument pas leur faire de mal et qu'on veut les emmener à devenir des adultes heureux avec un chemin serein et qu'on se voit dans l'impossibilité parce que c'est pas réfléchi ces comportements violents hein. C'est de la réaction, voilà, on n'est pas dans le temps de la relation, on est vraiment dans le temps de la réaction et voilà, c'est très culpabilisant et c'est vraiment une maman dragon, j'avais l'impression d'être une maman dragon.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a été cette maman dragon a été mauvaise pour vos enfants?
Toxique, oui, à certains moments oui, bien sûr. Alors ce qui est compliqué je trouve quand on est maman, c'est que on peut être d'une douceur infinie et d'un amour inconditionnel et la seconde d'après, finalement, se transformer en une maman dragon et 3 minutes après, redevenir une maman d'une douceur incroyable. Je pense que ça doit être assez déstabilisant pour eux. C'est très déstabilisant aussi pour nous.
Oui, vous parliez de la culpabilité.
Bien sûr.
Voilà, que finalement, d'être une maman dragon, ça a suscité beaucoup de culpabilité pour vous.
Oui, on est toxique pour nos enfants à ce moment-là. Après, les parents parfaits n'existent décidément pas. Mais où est-ce qu'on peut mettre la limite entre le parent ou la mère imparfaite et la mère toxique. Ça, c'est vraiment une question que je me pose maintenant tous les jours.
Donc Sophie, vous venez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées, notamment avec votre fille Florie, quand elle est entrée dans cette période dite du terrible two. Et puis comment vous l'avez vécu, que vous vous êtes sentie une mère dragon, une mauvaise mère, que ça a suscité beaucoup de culpabilité pour vous. Voilà. Moi j'ai d'ailleurs beaucoup de parents qui viennent me voir dans mon cabinet parce que eux aussi, ils vivent ces difficultés-là, ils ont ces ressentis-là qui sont difficiles et qui les amènent à avoir un regard sur eux douloureux. Ce que je vous propose, Sophie, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté, dans lequel on va retrouver Elisabeth Pilâtre-Jacquin. Elisabeth, vous êtes psychanalyste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par rapport à ce que vient de nous dire Sophie, ce qui se passe à cet âge-là, dans la tête d'un enfant ?
Ce qui se passe dans la tête d'un enfant, c'est toujours à découvrir, c'est toujours un mystère. Ça ne peut pas se faire avec une boule de cristal. En revanche, ce que je peux apporter, c'est des éléments qui éclairent le processus de développement de l'enfant et que ce moment autour de 2 ans, entre 2 et 3 ans, c'est un moment charnière, une des étapes, des nombreuses mais assez fondamentales, du développement de l'enfant vers l'adolescence et l'âge adulte. Et c'est vraiment le moment de l'affirmation de son identité, déjà la prise en main, en corps, en émotion de cette identité, et ce besoin de s'affirmer, parce que c'est un moment fort d'autonomie. Il y a un célèbre psychanalyste Nasio qui dit « grandir, c'est apprendre à se séparer ». Et du coup, les étapes de l'enfance, c'est une succession de séparations avec la période antérieure. Et chaque séparation fait passer dans un univers nouveau de sensations, d'images, d'autonomie. Et autour de 2 ans, c'est quand même la pleine autonomie. Il marche, il est propre, il peut manger tout seul, il peut s'habiller tout seul. Entre 2 et 3 ans, il commence à parler. 3 ans, en général, on parle parfaitement, surtout aujourd'hui. Donc c'est un moment d'enivrement très grand, partagé entre angoisse et enivrement, précisément, parce que tout d'un coup, on sent ce sentiment à la fois de toute puissance et de solitude, c'est-à-dire de fragilité et de puissance, qui s'exprime. Alors, ce que vous disiez qui me paraît intéressant et que vous avez remarqué, c'est que, donc, on peut décrire un processus, mais il est vécu par chaque enfant de façon très différente, y compris à des moments différents. Ça peut être 18 mois, ça peut être 3 ans, enfin, j'exagère, mais c'est pas, voilà, c'est pas un timing,
ça
c'est pas une programmation.
Pile à 2 ans.
C'est dans un processus de développement qui se fait dans un univers familial, social, culturel, qui a ses règles, ses lois. Et vous remarquiez bien que le premier, vous étiez beaucoup plus calme, tranquille, et que le second, c'est une autre aventure. Déjà, il faut qu'elle fasse sa place dans un trio installé, et c'est pas rien pour une petite fille ou un petit garçon, d'ailleurs, c'est pas une question de sexe. Donc ce besoin d'affirmation est d'autant plus fort qu'elle devait aussi percevoir chez vous cette fatigue extrême. Et il y a un jeu, si vous voulez, parce qu'à cet âge-là aussi, ce qui est important dans le développement, c'est qu'il y a la conscience d'être une fille ou un garçon vraiment. L'enfant l'intuite, y compris dans la projection, le regard parental sur lui ou elle. Mais c'est vraiment le moment où on doit être fier d'appartenir à son sexe. On doit commencer à faire un petit peu le deuil de tous les sexes, de commencer à s'identifier à papa ou à maman. Alors, identifier au sens des comportements, ça peut être indifféremment père ou mère, mais dans son sexe, c'est vraiment, on n'a qu'un seul sexe. Et c'est aussi déjà le moment où on fait le deuil d'avoir la toute-puissance d'être et garçon et fille. C'est vraiment un processus qui bouleverse très profondément l'enfant. L'attitude, le climat, la pression qu'il ressent, il en joue, d'autant plus qu'il peut avoir un tempérament particulièrement affirmé. Donc c'est un moment très difficile. Vous l'avez noté, d'ailleurs, en disant que le second, vous êtes réveillé comme une mère dragon, peut-être beaucoup plus pour le premier. Et moi, j'avais envie de vous poser une question, si c'est possible. Mm-hmm. Quelle est la différence d'âge entre les deux ?
2 ans.
2 ans, donc c'est très court, quand même assez court. Et cet enfant, vous le désiriez tous les deux, cette petite fille, vous l'avez donc fait, d'accord. Bon, ça fait partie aussi des choses importantes.
En tout cas, là, ce que vous dites, Elisabeth, donc c'est un âge où il y a un conflit intérieur, psychique pour l'enfant, dont d'ailleurs ça m'évoque forcément Françoise Dolto, hein, qui a parlé justement de ce développement psycho-affectif de l'enfant. Et ce conflit est une étape nécessaire. Ce qui me semble important de dire, c'est que c'est bon signe. C'est bon signe que l'enfant passe par cette étape-là, même si, comme nous l'a dit Sophie, c'est extrêmement difficile et parfois douloureux à vivre. En tout cas, c'est le signe que l'enfant, il s'individualise, il commence à se séparer de ses parents, à acquérir davantage d'autonomie. D'ailleurs, on voit bien que cette période, elle arrive entre guillemets entre 2 périodes. Une première période, en tout cas de fusion, de relations proches avec les parents. Et puis, juste avant, deux ans, même si on a bien dit que c'est pas deux ans pile, mais dans les mois qui précèdent cette période-là, c'est aussi une période où les parents vont constamment dire non à l'enfant, puisque l'enfant commence à marcher, commence à s'ouvrir évidemment davantage à ce qui l'entoure, il va vouloir tout toucher, tout prendre, tout attraper, et les parents vont tout le temps être derrière lui pour dire non, non, non. Alors, c'est pas non pour seulement l'empêcher, c'est souvent pour des raisons sécuritaires, pour éviter ce qui est dangereux pour lui. Au niveau du langage aussi, le langage apparaît, et tout ça, c'est des choses dans le développement de l'enfant qui lui permettent d'avoir une meilleure conscience de lui, et donc, du coup, de pouvoir davantage être connecté à son être, ce qu'il est, ses besoins, ce dont il a envie, et que du coup, il va être davantage en mesure aussi de l'exprimer.
Oui et non. Vous évoquez la notion de conflit. J'allais dire que c'est le moteur de la vie, le conflit. Conflit psychique, et à ces âges-là, il se manifeste beaucoup par le comportement. Le comportement étant un langage. C'est pour ça que c'est difficile à décrypter, un langage comportemental, mais c'est un des moyens majeurs qu'a l'enfant d'exprimer, puisqu'il n'a pas encore la pleine maîtrise des paroles, et qu'en plus, les paroles ne représentent pas la même chose pour un enfant que pour un parent. Il singe quelque chose, mais la compréhension est très différente, puisque son rapport au réel est excessivement différent. Et quand vous dites le parent dit non avant, c'est pour le protéger, effectivement. Parce que ils captent le réel, mais ils n'en ont pas encore une pleine conscience. Leur représentation est encore imprégnée d'imaginaires, de fantasmes, qui n'ont rien à voir avec les pensées abstraites des parents. C'est aussi pour ça que c'est souvent difficile, c'est que les enfants s'expriment aujourd'hui assez tôt, avec des mots empruntés au vocabulaire adulte, mais que c'est surtout et avant tout avec leur comportement qu'ils disent des choses justes de leurs besoins ou de leurs désirs.
Donc là, vous soulignez vraiment l'importance d'observer Absolument. Les enfants pour essayer de décrypter, voilà. Décoder ce qu'ils viennent Absolument. Nous dire à nous les adultes.
Et justement, l'adulte me semble là pour, c'est ce que dit Dolto, pour mettre des mots justes sur ce qui n'est chez l'enfant que des représentations, des sentiments confus. Hein, démêler ce qu'il ressent, de ce que ressent l'adulte, etc. Donc le mot juste vient faire là, nommer la chose, la fait exister différemment et soulage l'enfant parce que l'adulte donne du sens. Donc le mot qui doit nommer les comportements, y compris erratiques, violents, etc., il doit être jamais attentatoire à la dignité de l'enfant, ne pas être dans la terrorisation, même si ça doit être ferme, parce que la fermeté, elle est faite pour protéger, pas pour humilier ni terroriser. Mais qu'elle soit suffisamment ferme pour aider l'enfant à entendre que le non, c'est une protection et qu'il faut qu'il l'intériorise. Mais ça prend du temps. Surtout dans des situations où l'enfant sent les parents en état de plus grande tension, parce qu'il va jouer de ça. Il va jouer aussi des conflits parentaux. Parce que comme je disais, l'enfant est en train de s'identifier au père, à la mère, développer des sentiments amoureux pour les deux, mais différenciés. Et donc, il joue l'un contre l'autre de façon très inconsciente, mais il cherche à garder, à capter l'amour et le lien unique. Donc, tout pour lui est occasion de s'exprimer, d'exprimer son refus, ses désirs, désir de manger et plaisir de manger, désir de bouger, nécessité de bouger, tout ça. Et du coup, la parole et l'attitude parentale l'aident à décrypter toutes ces distinctions.
Et moi, je l'ai bien vu à la maison avec ma fille, par exemple, qui était petite, où il y a des moments, elle est quasiment délirante dans son opposition ou dans ses comportements. Et en fait, quand on lui met un non ferme, quand on lui pose la limite, en fait, on voit que tout de suite, ça la rassure. Tout de suite. Donc, c'est vraiment hyper important, je trouve, de poser cette limite, mais non pas dans la violence, parce que là, ça va encore augmenter l'angoisse et donc les crises, mais de dire un non. C'est pas un non hystérique, mais c'est bien un non. Non, c'est comme ça. Je t'expliquerai pourquoi, mais voilà, c'est un nom.
Oui, en tout cas, là, vous évoquez l'une et l'autre vraiment cette question du cadre. Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir, justement, qui s'interrogent sur cette question du cadre et qui se sentent très perdus aujourd'hui. Donc oui, il faut être autoritaire sans être autoritariste, mais voilà, comment construire et trouver une limite juste entre les deux, et que on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur l'éducation qui a beaucoup tendance à culpabiliser les parents ou en tout cas à susciter beaucoup beaucoup d'injonctions, il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça, ce qui amène les parents à être un peu perdus et justement à plus savoir comment poser ce cadre, qui aurait cette idée où il faut plus de règles, de punitions. Et pourtant, là, dans ce que vous dites, Sophie, vous dites bien voilà, que le cadre, que le nom, des règles, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour l'enfant et extrêmement structurant pour lui, même s'il s'oppose à celle-ci.
Oui, tout à fait.
Et que l'opposition est plutôt un bon signe, justement, du développement psychique de l'enfant. En tout cas, on sait qu'à cette période-là, de 2 ans, je parlais du développement moteur, du développement du langage, mais finalement, dans toutes ces expressions, l'enfant aussi est limité, c'est-à-dire qu'il a envie de faire plein de choses, mais il n'y arrive pas forcément. Et que ça peut susciter beaucoup de frustration pour lui.
Grandir, c'est apprendre à gérer ses frustrations. Et c'est vrai que l'époque n'aide pas, parce que la grande consigne, c'est tout de suite, et vite. Hein, je veux, je prends. Et c'est là où on confond besoin et désir. Parce que les désirs, ils sont sans fin et sans limite. Et justement, la règle, et ce que devraient apprendre et ce que doivent apprendre les parents, c'est qu'il y a toujours des limites. Et que c'est un cadre qui sécurise tout le monde. Le désir de chacun étant sans limite, s'il n'y a pas de régulation, de structuration, et c'est là où s'exerce l'autorité. Ce n'est pas pour imposer son bon vouloir ou son désir d'adulte, c'est pour aider l'enfant à grandir dans une communauté où il y a d'autres sujets désirants. Et effectivement, il faut apprendre à réguler, à différer ses désirs. Et c'est là où on rentre dans une sorte de ce qu'on appelle la sublimation. C'est-à-dire que mes désirs, j'en suis responsable, l'autre en a, il faut les négocier, les différer, parce que c'est pas immédiatement possible. Et c'est vraiment cet apprentissage-là qui est au fondement de l'éducation et du développement de l'enfant. Pour en revenir au poids de l'environnement, c'est vrai que la culture dominante, on est passé au 19e siècle d'une culture de l'enfant comme envahie par le mal, qu'il fallait exorciser, tous les comportements, enfin c'était une vision très négative. De l'enfant un peu démon, hein, Satan était dans l'enfant, et aujourd'hui c'est peut-être l'ange, donc on est passé du démon à l'ange, et dans les deux cas, ils ne sont pas humains. Donc un ange, parce qu'ils sont petits, ils sont innocents, ils sont fragiles, ils sont charmants, c'est l'envie de leur faire plaisir, et que d'être gentil avec eux devrait suffire. Alors que non, on peut pas être gentil parce qu'ils sont ni anges ni démons, mais ils sont une force de vie extrême et contradictoire avec tous ces conflits qui s'expriment. Et si le parent alentour est déboussolé parce qu'il se dit « je l'aime, j'ai tout fait, je suis gentil, je suis compréhensif », et ma foi, ça ne suffit pas. La fermeté est aussi importante que la gentillesse au bon moment. C'est ça le poids de l'environnement. Et donc les parents sont démunis. Il y avait autre chose qui me paraissait vraiment important à souligner, c'est que l'adulte, quand vous disiez vous deveniez agressif, vous vous mettiez à crier, c'est de renvoyer à l'enfant l'idée que, à la limite, vous vous mettez au même niveau que lui, dans la mesure où vous ne maîtrisez pas plus vos émotions que lui. Alors que c'est ce qui devrait faire la différence.
Oui, tout à fait.
C'est apprendre à repérer ses émotions, à les nommer, et à pas les. En tout cas, si on n'est pas coupable de ses émotions, on est responsable des actes qu'on commet sous le coup de l'émotion. Et c'est censé être l'état adulte qui peut venir assez vite. Mais l'enfant, non. Lui, il va manifester l'émotion jusqu'à ce qu'il trouve une barrière, un stop, éventuellement un mot, qui n'est pas « c'est mal, t'es insupportable, regarde comme tu me mets en colère », parce qu'on lui fait porter la responsabilité de notre colère. Non, on est en colère, on en prend la responsabilité, mais c'est pour l'aider, lui, juguler la sienne. Et les parents sont dans cette obligation de bienveillance et de gentillesse, où ils assimilent l'autorité à quelque chose de terrible, de limitant, de contraignant. Mais heureusement, d'ailleurs, qu'on est limité, parce que ça nous prouve que le réel, c'est pas de faire n'importe quoi.
Dans ce que vous disiez, Elisabeth, l'importance pour le parent de prendre en compte son propre vécu, et j'entendais presque dans la question de l'accepter, finalement, ce propre vécu.
Très important.
Pour pouvoir ensuite accompagner son enfant et être là pour lui.
C'est important d'être consciente que nos désirs, nos besoins, ils sont complètement légitimes, qu'on peut les exprimer. Et même à ce titre-là, on peut leur dire non, pour l'instant, c'est pas le moment, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de me reposer, etc. Ça sera compris ultérieurement, c'est pas un rejet, mais c'est, voilà, je suis aussi un être désirant avec des besoins, et que, enfin, tout petit, c'est à nous de le gérer, mais c'est important d'en être conscient et de l'accueillir.
Sophie, donc vous avez connu ce terrible tout avec votre fille, vous avez rencontré des difficultés, vous avez dit voilà, à quel point ça a été douloureux pour vous. Où est-ce que vous êtes allée chercher de l'aide ?
Alors d'abord, on a pris le problème complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'on a été demander de l'aide à plein de professionnels différents sur le problème du sommeil de notre fille, parce qu'on pensait que c'était ça. La difficulté principale, et en fait, non. C'était pas ça la difficulté principale. La difficulté principale, c'était nous, ce qu'on envoyait justement à notre fille. Donc, on a vu des différents professionnels, dont vous, Mathilde, qui avait pu nous aiguiller dans notre parentalité. Et puis, la deuxième chose, moi, qui a changé ma manière d'emmener dans ces apprentissages ma fille et mon fils, c'est la discipline positive. J'ai découvert ça complètement par hasard. Enfin, chez vous, il y avait un livre de Jane Nielsen sur la discipline positive. Je m'étais dit qu'un jour il faudrait que je le lise. Et puis après avoir pleuré tout mon sou parce que ma fille m'avait rendu chèvre, je suis tombée sur un article avec des ateliers parents. Donc je me suis dit, tiens, je vais lire le livre, je vais faire les ateliers et voyons ce que ça donne. Et ça a été une véritable révélation de comprendre que derrière ces crises, il y avait un besoin qui était mal exprimé par l'enfant puisqu'il ne peut pas l'exprimer autrement. Il n'a pas les compétences pour le faire. Et que si nous, parents, on allait rejoindre l'enfant dans son besoin, à l'endroit où il est, on allait pouvoir l'emmener sur le talent et la compétence qu'on veut lui transmettre, qu'il puisse avoir dans sa besace pour quand il sera plus grand.
C'est ça la discipline positive ?
La discipline positive, c'est une démarche éducative qui est ni punitive, ni laxiste, qui est basée sur deux piliers fondamentaux, la bienveillance, donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler la gentillesse, mais c'est encore un petit peu au-delà. La bienveillance, c'est reconnaître que la fraise tagada, pour une petite fille ou un petit garçon de 2 ans, bah, c'est important. Il la veut, cette fraise tagada. Je comprends que tu la veux. Je comprends que ça soit important pour toi de manger maintenant tout de suite ta fraise tagada. Le deuxième pilier de la discipline positive, c'est la fermeté, dont on parlait tout à l'heure. C'est le respect du monde de l'adulte, des règles sociales. Et de se dire, ben, en fait, on est juste avant le déjeuner, donc ça me paraît compliqué de l'avoir.
C'est pas le moment.
C'est pas du tout le moment. Donc la bienveillance, je comprends que ça soit pour toi important de manger une fraise tagada. Je comprends très bien que t'en aies envie. Comprends-moi aussi que ce soit pas le moment. Je pense que moi, je suis ta mère, ton père. C'est pas le bon moment pour toi pour la manger. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme solution qui soit respectueux de ton besoin ou de ton désir et de ma nécessité aussi d'adulte, qui va pouvoir être aidante pour toi, reliée, raisonnable et respectueuse. D'accord ? Ça, c'est important. Et le troisième pilier, un peu, la discipline positive, c'est l'encouragement. On va donner du souffle, on va donner du cœur à l'ouvrage à l'enfant. Donc, par exemple, un enfant qui, en termes de motricité, n'est pas encore au point, notamment sur l'âge du terrible tout, qui fait qu'il renverse son verre pour la énième fois, alors que ça fait 36 000 fois qu'on lui explique que, ben non, un verre, on le pose, on ne joue pas avec. D'accord ? Notre premier réflexe serait de dire, mais c'est pas possible, fais un petit peu attention, j'en ai marre, ça fait 15 fois que je te le répète, mais t'es insupportable. Toutes ces genres de gentillesse qu'on peut dire. On va plutôt lui dire, oups, ah, pas de chance, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour arranger ça? Et en fait, en faisant confiance à l'enfant sur ses capacités de réparation et de trouver des solutions, on se rend compte que les enfants ont envie de contribuer. En fait.
Donc c'est dans ce que vous dites, j'entends vraiment cette idée de rendre acteur l'enfant de ce qui se passe pour lui, de ce qu'il vit.
De le remettre en capacité, en fait.
Vous disiez désir de transmettre, et la meilleure façon de transmettre, c'est leur proposer un modèle dont ils peuvent s'emparer. Donc si vous régulez vos réactions émotionnelles, vous lui offrez la possibilité de faire pareil. C'est-à-dire, on peut renverser un verre, mais effectivement, c'est à l'enfant, assez vite, de réparer. Et que c'est faire appel à son sens, même de l'action. C'est agir pour un enfant, c'est son moteur. Donc, si on l'aide à agir en respectant un certain nombre de procédés, de procédures, c'est ça qui l'aide à grandir. Et c'est pour ça que c'est une discipline dite positive, c'est-à-dire, et qui casse avec cette image que l'autorité, c'est mon désir, maintenant, c'est arbitraire, et tu peux pas comprendre, mais c'est je t'accompagne dans cette prise de responsabilité de tes actes, de tes paroles, de tes comportements.
Oui, en tout cas, là, on voit bien que l'enfant, sa part de responsabilité, ce qu'il est, en tout cas que le parent peut faire de l'enfant un allié et s'appuyer sur lui pour justement dépasser ces moments qui sont difficiles,
oui,
tant pour lui que pour le parent. C'est souvent, moi, ça m'évoque une maman, en tout cas sur la question des bêtises, une maman qui me racontait l'autre jour en consultation, voilà, que sa fille de 20 mois, elle a dessiné sur les murs, ce qui l'a mis beaucoup en colère. Du coup, elle a disputé sa fille, qui évidemment par la suite a recommencé. Selon vous, Elisabeth, est-ce que les enfants de 2 ans, ils font des bêtises ?
Alors, bêtise, pour lier ce que vient de dire Sophie, tout est dans le regard qu'on porte sur les actes posés. Donc, la bêtise, ça dépendra du parent, de son état de fatigue, de sa disponibilité, et même de sa conception qu'il a de l'ordre, de ce qu'il faut ou faut pas faire, y compris à tel âge.
Donc, ce qui peut être une bêtise pour un parent ne le sera pas forcément
sera pas pour
l'autre.
Un autre. Alors, ce qui peut être désagréable, c'est un mur crayonné, c'est très embêtant, et c'est comment apprendre à l'enfant à ne plus le crayonner, parce que pour lui, c'est une expression libre de sa créativité, et qu'il n'a pas encore intégré les normes du respect de l'environnement. Donc c'est un apprentissage. Donc c'est accompagner ça, quitte en étant assez ferme, et trouver des moyens et des procédés pour lui dire « t'as le droit de crayonner, mais on va établir une grande feuille de papier, on va la scotcher, et puis après tu la dérouleras, tu la plieras, etc. » C'est de lui donner les moyens qui respectent notre cadre et nos règles, pour qu'on n'ait pas constamment à dire qu'il est dans la bêtise, mais qu'il apprend à utiliser son environnement. Et là encore, je reviens vraiment sur le changement de regard, qui me paraît important, y compris dans non seulement les bêtises, mais vous disiez par exemple les symptômes. On ne dort pas la nuit, c'est un symptôme. Et aussi bien pour un enfant qu'un adulte, ça raconte quelque chose d'un équilibre global qui se dérégule. Or, très souvent dans la médecine moderne ou l'approche modèle, on va masquer le symptôme. On donne un cachet pour faire tomber la fièvre, on va donner des somnifères pour faire dormir, mais on ne répare pas et on ne cherche pas les causes de ces dysfonctionnements. On en fait une pathologie qu'il faut faire disparaître. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est antinomique avec, en tout cas toute la vision que j'ai, c'est d'accompagner la vie dans ses manifestations, essayer de la comprendre, y compris quand c'est un peu mystérieux, et faire de la personne qui, voilà, ses symptômes. Ce que vous dites, un allié, c'est plutôt un acteur qu'un allié. C'est-à-dire lui donner des moyens de modifier des comportements ou qui se manifestent par des symptômes.
Par rapport à cette question du regard des autres, quand voilà, l'enfant va faire une colère, se rouler par terre en public, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour le parent ?
C'est entre la honte et la culpabilité. Donc plus elle est forte dans chaque parent, plus elle est convoquée à ce moment-là. L'image du parent lui-même qui est renvoyée dans le regard supposé de l'environnement. Donc quand on est un peu fragile, sensible, ça peut prendre des proportions énormes. Et du coup, on se coupe de ce qui se passe. Et l'enfant doit le ressentir très fortement. Les émotions, les sentiments, ça passe de corps à corps, j'allais dire.
Transpire.
Forcément, entre enfants et parents. Donc c'est aussi tout ça qui se gère à ce moment-là. Enfin, qui se gère ou se gère pas bien, mais... En tout cas, c'est
oui. En tout cas, cette honte et cette culpabilité, bien souvent, amènent justement les parents à se réagir. Ouais,
absolument.
Tout à fait. Et voilà. Du coup, de pas justement à pouvoir répondre de manière adaptée à l'enfant.
Donc là, ça renvoie à l'image narcissique du parent, quoi. Quelle image je veux donner de moi ? Une image supposée, d'ailleurs, parce qu'on prête aux autres un regard, alors que c'est notre propre regard qui est projeté dans celui des autres. Même si, effectivement, ça peut déranger objectivement l'environnement, mais ma foi, cet environnement va oublier l'enfant dans les 30 secondes où ils auront quitté le restaurant. Mais le parent reste avec ça. Et j'en reviens à cette nécessité de s'accueillir soi-même et de connaître tous ces mécanismes à minima. Et c'est pas forcément dans les livres savants qui proposent plein de méthodes pédagogiques, mais c'est ce temps qu'on passe à essayer de se... Et c'est ça qu'apporte aussi l'enfant, c'est qu'il apprend aux parents en lui renvoyant en miroir tous ces processus que le parent a vécu, lui, dans l'enfance, et que ça réactive dans ce lien. Donc on réagit parfois avec les mêmes intensités émotionnelles que... dans notre propre enfance. Souvent, on m'amène des enfants et je propose aux parents de faire un travail eux-mêmes, parce que c'est eux les éducateurs et que souvent l'enfant est un peu le symptôme d'un climat et renvoie un certain nombre de choses et que donc cette nécessité, voilà, c'est le parent qui est au centre.
Ça m'évoque ce que vous nous disiez tout à l'heure dans votre témoignage, Sophie, sur ces moments où votre fille pouvait vous taper, voilà, avoir des comportements agressifs. Elisabeth, qu'est-ce que c'est que cette agressivité de l'enfant ?
C'est une expression vitale. L'agressivité, elle est importante hein, parce que c'est aussi à la fois nous protéger du monde et puis le prendre aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, une pulsion vitale. Mais là encore, c'est apprendre à la réguler pour qu'elle ne soit pas attentatoire à l'autre ou à soi-même. Parce que beaucoup de violences, aussi infantiles, se retournent sur l'enfant lui-même. Donc c'est repérer ce moment. Et ça signale aussi l'impuissance à pouvoir réaliser un désir. Donc à défaut de pouvoir le réaliser, bah, je casse ou je détruis.
Vous, Sophie, vous parliez tout à l'heure du coup de ces moments où votre fille vous a tapé. Comment vous avez fait ?
Eh bien, au tout début, avant que je connaisse la discipline positive, alors j'ai jamais frappé mes enfants. En revanche, je pouvais les prendre très 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 fermement, les mettre dans leur chambre très virulemment aussi et claquer la porte.
Oui, non, écoute, en tout cas, bien. Là, vous dites que l'agressivité que l'enfant peut exprimer à l'égard du parent, évidemment, va susciter de l'agressivité chez le parent et que le risque, c'est de répondre sur ce même niveau et de répondre par de l'agressivité.
Oui, complètement. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dès lors qu'on comprend notre manière de fonctionner en se disant « Attends, là, elle est agressive. Moi, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de la passer à la moulinette. » Je vais être dans la vengeance et dans la revanche. C'est pas un comportement approprié de parent. Donc là, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle est pas d'accord et qu'elle veut être le chef. Je vais me mettre en arrière en me disant, OK, là, c'est pas moi et ma fierté de parent en disant, bah, je vais gagner à tout prix. Mais ça va être par lui donner du pouvoir dans mon cadre à moi. Donc par exemple, pour l'habillage, ça va être, bah, tu choisis telle ou telle tenue. Donner un choix limité, par exemple, à l'enfant.
Ça peut être une des solutions possibles. Oui, parce que l'enfant, à 2 ans, n'a pas la capacité de pouvoir choisir parmi toute son armoire, qu'au contraire, cette multitude de choix est extrêmement angoissante pour lui.
Tout à fait. Oui, ouais, complètement.
En filigrane, vous nous avez dit l'importance d'accueillir, justement, les émotions que vive l'enfant. Alors, évidemment, d'accueillir la joie, c'est assez facile. D'accueillir la tristesse et les pleurs, c'est souvent un peu compliqué. Comment vous avez fait en tant que parent pour justement gérer tous ces aspects émotionnels, voilà, ces pleurs, la tristesse ?
Imaginez-vous le soir, vous rentrez de votre journée de boulot, vous n'avez pas eu les contrats que vous deviez faire, vous êtes fait complètement humilié ou par votre boss ou je sais pas trop quoi, et votre conjoint qui vous dit « Non mais ça va, tu vas pas te mettre dans un état comme ça pour ça quoi ». Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, à part la solitude, du désœuvrement, et c'est mais en fait, il comprend rien, quoi.
Et je voulais quand même revenir un petit peu sur les émotions, dans la mesure où c'est vraiment le propre des humains et que ça jaillit. L'émotion, le propre de l'émotion, c'est que ça jaillit et elle vient juste après la pulsion. C'est la phase émergée de la pulsion. Elle est déjà un peu consciente, l'émotion, elle peut se nommer. Mais chez les tout-petits, le propre de ce jaillissement, c'est qu'il n'y a pas les moyens de la régulation, ni de la compréhension, ni de la régulation. Donc le propre de l'adulte, c'est de les aider à accueillir ces émotions et à les réguler. C'est en ça que la discipline positive est formidable, c'est qu'elle donne des instruments de régulation qui éloigne la culpabilité, qui ne fait pas qu'on met le doigt sur le symptôme, mais qu'on accompagne son expression, lui donner du sens et lui donner les moyens de s'exprimer. Parce que ce qu'on appelle le passage à l'acte, qui est le propre des gens impulsifs, c'est qu'ils agissent leurs émotions. Or, être humain, c'est effectivement réguler ses émotions pour pas faire n'importe quoi et pas poser des actes négatifs, cruels, etc., manipulatoires. Donc, pour moi, la discipline positive, c'est vraiment une façon de communiquer qui tient compte de tous ces mécanismes de façon bienveillante et lucide, mais sans oublier, voilà, qu'en tant qu'adulte, on a un rôle de structuration, de régulation, de limitation qui soulage l'enfant. Parce qu'aller vouloir autonome trop tôt, c'est comme si on se déchargeait sur eux d'une responsabilité dont ils n'ont pas les moyens, ni intellectuels, ni physiques, ni psychiques. Et ça peut être dévastateur. Et ça peut effectivement renforcer ce côté irruptif. Hein, c'est-à-dire l'agressivité, elle vient, c'est l'expression d'une volonté toute puissance qui est nécessaire à la survie, mais qu'il faut complètement réguler aussi. Donc c'est en ça que la discipline positive me paraît un bon moyen. Peut-être la remarque que je ferais, c'est que vous êtes remarquablement capable de dédoublement analytique à chaque étape de votre relation, ce que tous les parents ne peuvent pas faire. Être dans cette capacité d'agir et de s'écouter, de se voir agir pour se donner un temps de pause, pour réajuster son comportement, c'est quand même tout à fait exceptionnel.
Mais en discipline positive, on est toujours là à se dire que voilà, tous les échecs, tous les moments, tous les conflits sont des opportunités de tisser du lien, de se mettre en lien, de faire un câlin, de dire combien on tient à l'autre, en fait, et de transmettre cet amour vital. Et on sait que l'amour, comme la nourriture, comme le sommeil, c'est une nourriture qui est vitale pour un enfant. Et donc, tous ces conflits sont aussi des sources de retrouvailles et de manière de dire combien on s'aime. Et donc, les familles de discipline qui utilisent en tout cas ces outils d'éducation positive sont loin d'être une famille parfaite. Mais c'est des familles où finalement, on se forme, on s'intéresse à comment est-ce que, là, il y a une rupture de lien, comment est-ce que je vais pouvoir retisser ce lien à l'enfant. Et c'est des outils qui marchent avec les enfants, mais avec son conjoint, ses collègues de travail, avec sa famille, plus large.
C'est enseigné dans les entreprises.
Tout à fait.
Parce que c'est une façon de réguler les conflits inhérents à la vie humaine dans les interrelations. Il y a toujours des frictions et c'est important de les réguler. Et vous disiez, ça renforce. Effectivement, quand on règle des conflits, ça renforce les liens. Parce que c'est une capacité à surmonter des moments de tension absolument inhérentes à l'expression de la vie. Mais de les avoir résolus renforce et la considération et le lien.
Oui, mais c'est pour ça qu'en discipline positive, par exemple, on ne va pas utiliser la punition, par exemple, ou ce genre de choses. Ou la fessée ou des trucs comme ça, c'est inimaginable pour nous.
Parce que
la punition se centre sur ce qui s'est passé, le comportement inapproprié, alors que en discipline positive, on va se centrer beaucoup plus sur la recherche de solutions, sur comment co-construire le futur.
En tout cas, merci Sophie pour votre témoignage. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Si vous, il y avait un livre que vous deviez recommander.
Contre toute attente, le livre de Jen Nielsen sur la discipline positive.
Ok, et vous, Elisabeth ?
Alors moi, ce n'est pas un conseil de lecture, mm-hmm. mais j'avais envie, pour clore, de dire que le Terrible Two, ce n'est pas un état. C'est pas du tout une pathologie, mm-hmm. c'est une crise de croissance et qu'elle est pas réglée mais accompagnée quand le parent accepte de changer son regard en s'acceptant déjà lui-même pour mieux accueillir l'enfant et lui permettre de passer ce moment. Et ça va le préparer à l'adolescence mm-hmm. parce
oui,
que l'adolescence est la dernière.
Une
crise importante,
mini-crise d'adolescence.
De nouveau, de la construction d'une identité d'homme ou de femme, qui fait un peu écho aussi à cet enivrement et cette fragilité, mais à l'abord de l'âge adulte, alors que là, c'est à l'abord de l'enfance.
Merci beaucoup, Elisabeth Pilâtre-Jacquin, d'être venue partager votre expérience de psychanalyste avec nous aujourd'hui. Merci également, Sophie, bien sûr, pour votre témoignage si précieux.
Merci, Mathilde.
Hey, As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.